Donc, je suis en ligne actuellement avec Gabriel, qui est du collectif Libertaire. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
Gabriel, on va faire une petite interview concernant ce qui s'en vient cette semaine et concernant votre collectif Libertaire. Le collectif Libertaire, c'est un nouveau collectif, ça?
Ben oui, nouveau, oui. C'est né en fait au printemps dernier, donc c'est assez jeune, c'est quelques mois. Mais c'est pas ça fait longtemps qu'il y a des gens à Montréal qui s'organisent dans la même lignée que Libertaire. C'est juste un peu plus gros, ça.
Ouais. OK. Qu'est-ce que c'est en fait votre collectif?
C'est un collectif éco-anarchiste, donc qui a une perspective anarchiste, mais qui intègre à ça une forte pensée écologiste. Puis c'est ça, on travaille surtout sur la question des forêts actuellement, mais c'est seulement, je pense pas que c'est restrictif à ça, on sait juste qu'on a l'énergie pour travailler sur ça, mais on a une pensée qui est beaucoup plus large que la simple question des forêts. C'est juste qu'on travaille sur la question des forêts avec une pensée libertaire puis une critique libertaire.
OK. Donc là, actuellement, vous travaillez sur le dossier des forêts.
Oui.
Pourquoi le dossier des forêts?
Je pense que c'est une question de sensibilité beaucoup, là. Les gens qui sont réunis pour former Libertaire, je pense qu'elles avaient une sensibilité pour les questions de la forêt, puis c'est aussi une espèce de constat d'urgence, là. C'est-à-dire que on veut pas tomber dans les luttes réformistes, là, de faire protéger une forêt puis de se fermer la gueule après, c'est pas la question, mais en même temps, si on laisse faire ce qui se fait actuellement partout dans le monde, puis dans la forêt boréale, puis au Québec aussi, si on laisse faire la déforestation, ben on a beau avoir une critique révolutionnaire, une action révolutionnaire, mais les coupables vont se faire, puis c'est des écosystèmes entiers qui se perdent. Alors, il n'y a pas moyen de revenir après ça, sur ça. Donc, on s'est dit, il faut agir maintenant, il faut agir avec des actions radicales, une pensée radicale, puis il faut faire des gains. Oui, c'est vrai, un peu réformiste, mais il faut les faire, puis il faut faire avancer le mouvement avec ces gains-là.
Oui. Qu'est-ce que c'est l'éco-anarchisme?
Alors, je sais pas si je vais donner, mais là, je donne une réponse qui est
donne-moi ta réponse à toi.
Ouais, c'est ça, c'est ma réponse, puis toutes les réponses que je donne sont mes réponses de toute façon.
Ouais.
Mais, je pense que c'est en fait une critique profonde de toute la relation qu'a entretenue l'humanité avec la nature, c'est-à-dire que dans le mouvement anarchiste, on le sait, là, c'est pas nouveau là, ce que je dis là, mais il y a une critique de toutes les oppressions, que ce soit les oppressions la patriarcat, que ce soit le racisme, que ce soit l'oppression capitaliste, peu importe, il y a ces oppressions-là qui sont les hiérarchies finalement que l'anarchisme combat. Il y a aussi une oppression qui est celle de la terre, celle que les humains on fait subir à la terre. Donc c'est ça, la perspective éco-anarchiste, c'est de je pense délimiter quelle est cette oppression-là, puis après ça de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour mettre fin à cette oppression-là, puis comment aussi est-ce qu'on peut, dans le cadre du mouvement anarchiste plus large, puis du mouvement, je dirais, contestataire, comment est-ce qu'on peut faire avancer cette perspective-là, puis la joindre aux autres luttes qui se font contre toutes les autres oppressions.
OK, mais vous, le collectif Libertaire, vous êtes beaucoup plus concentré sur les problématiques environnementales.
Oui, mais comme je dis, c'est pas dans nos textes, là, les quelques textes théoriques qu'on a adoptés, il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qu'on a adoptés, c'est clair qu'on faisait le lien avec les autres oppressions. Nous, on s'occupe surtout de la question de l'environnement. Excusez-moi. Comme je disais, plutôt par sensibilité, mais je pense que c'est aussi, on a toutes des sensibilités pour les autres oppressions, puis on aimerait tout ça travailler à fond la caisse pour qu'elle cesse. Le problème, c'est qu'on a de l'énergie limitée, puis alors on organise surtout des événements par rapport aux forêts.
Oui.
On aimerait s'organiser des événements par rapport aussi, je sais pas moi, à d'autres formes de manifestations qui sont anti-environnementales, qui sont anthropocentristes, puis même plus large que ça, que ce soit la lutte du logement, la lutte anticapitaliste, c'est toutes des luttes qui nous tiennent à cœur. Mais comme je dis, de façon réaliste, on n'a pas l'énergie pour le faire. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos luttes qui sont les luttes sur la forêt actuellement. On essaie de les mener d'une façon radicale, avec une critique radicale, puis on est solidaire des autres luttes comme on peut, t'sais. Alors, c'est pas mal ça.
OK. Là, actuellement, au niveau du dossier de la forêt boréale, vous travaillez sur quel dossier plus spécifiquement? Je crois bien que c'est celui de l'île Levasseur.
Oui, c'est ça. C'est le gros dossier, puis je pense que c'est pas juste Libertaire là, qui...
Oui.
La plupart des groupes environnementaux qui travaillent sur la forêt actuellement le font sur la question des drones levasseurs. Parce que c'est une île qui est vraiment importante au niveau de la biodiversité. C'est une des plus grandes forêts anciennes qui reste au Québec. Sinon, la plus grande, qui est en un morceau, là, en un pan. Puis là, ils ont commencé là, depuis quelques semaines là, à couper la forêt à blanc, là, on le sait. C'est dans les plans généraux d'aménagement forestier, là, on sait qu'ils font des coupes avec protection de la régénération et des sols, là, la CPRS, qui est finalement une coupe à blanc. Donc, ils font des coupes à blanc. Eux, ils disent qu'ils vont la couper en 40 ans, mais Kruger, ça, qui est la compagnie qui coupe, dit qu'il va la couper en 40 ans. Mais il y a des gens qui disent qu'ils vont la couper en beaucoup moins de temps que ça. Il y a des gens qui ont dit avoir des sources, des employés, tout ça. Mais même les 50 ans qu'ils prédisent, c'est beaucoup trop vite. Ça va détruire un écosystème, ça va faire de l'érable levasseur un désert, puis qui va être replanté finalement. Donc une plantation, c'est ni plus ni moins une forêt qui est industrialisée, une forêt McDonald's. Donc nous, on se bat contre ça. Donc c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur le dossier de l'érable levasseur de par son importance, mais on aimerait ça, on avait décidé qu'on le ferait, on aimerait ça aussi lutter pour les forêts en milieu urbain. Là, il y a la forêt du bois de l'Équerre qui est à Laval, qui est la dernière grande forêt de la ville de Laval. Donc, on aurait aimé ça aussi lutter contre le... Là-bas, c'est surtout, c'est pas des coupes à blanc là, pour faire du papier de toilette comme Kruger fait. C'est plus des coupes qui se font pour étendre le quartier commercial, le quartier industriel de Laval. Donc, c'est une autre lutte qu'on aimerait faire. Puis, il y a aussi le parc La Vérendrye qui est important, mais c'est tout, comme je
dis. C'est tout des dossiers.
Ouais, c'est ça, c'est juste une question de temps.
C'est tout des dossiers sur la forêt.
Ouais.
Quelle est l'importance justement de l'île René Levasseur au niveau, tu me dis que c'est une forêt ancienne, qu'est-ce que c'est une forêt ancienne?
Oui, il faut aussi voir, bon pour ce qui est de la forêt ancienne c'est une forêt où il n'y a jamais eu d'exploitation commerciale avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mine, il n'y a pas eu de coupes qui ont été faites, il n'y a pas eu de chasse intensive commerciale, il n'y a rien eu de ça, donc c'est un écosystème ni plus ni moins assez intact. Puis, pour qu'un écosystème soit intact, il faut une assez grande superficie, parce qu'on peut pas prendre une forêt de 3 km carrés qui est entourée de béton, puis ça, c'est pas un écosystème intact. T'sais, un écosystème, ça prend une grande superficie. Donc, l'île René Levasseur, c'est plus que 2000 km carrés. Ça, les biologistes s'entendent pour dire qu'en milieu boréal nordique, ça prend au moins 2000 km carrés pour qu'un écosystème soit autonome puis soit complet. C'est le cas de l'île René Levasseur. Puis c'est ça qui rend cet écosystème-là super important, c'est justement le fait qu'il soit énorme. Donc il peut en lui-même, même si on l'entourait l'île René Levasseur là de ville, là, il serait, ben, c'est sûr, ce serait pas idéal, puis c'est pas la question là, mais juste il serait un écosystème viable en tant que tel. Donc c'est pour ça qu'on veut le défendre, parce que c'est vraiment la plus grande coupe là qui se fait actuellement au Québec, là, elle commence actuellement sur l'île René Levasseur.
OK. On parle d'arbres de quel diamètre là dans cette forêt-là?
Moi, je ne suis pas allé personnellement, puis il n'y a pas beaucoup de recherches biologiques qui ont été faites sur l'île. Moi, ce qu'on me dit de camarades qui sont allés, là, c'est que c'est des arbres qui sont... On parle pas de diamètre beaucoup parce que c'est une forêt tellement nordique, là. On est près des limites commerciales de la forêt boréale. Après la forêt Levasseur, plus au nord, là, c'est la taïga. Donc les arbres sont relativement petits, mais c'est des épinettes noires qui ont souvent 300 ans, 350 ans. C'est parmi les arbres les plus vieux qu'il y a au Québec. Là. Ils n'atteignent pas des diamètres très impressionnants là, parce que à cause du climat. T'sais. Donc c'est ça, c'est ce qui est encore plus dangereux, c'est ça, c'est que ça prend 350 ans pour qu'une épinette ait 20 pouces de diamètre. Si on les coupe à blanc, ça va être long avant qu'on puisse les recouper à blanc, parce que c'est le plan de l'industrie capitaliste de la forêt, tu sais, si on coupe à blanc, puis quand ça va être repoussé, on va venir recouper à blanc, sauf que ça va leur prendre du temps, tu sais, ils vont couper à blanc le Levasseur selon leur projet, si on les empêche pas, là, si on reste assis puis qu'on fout rien, ils vont le faire, puis ils vont revenir la couper dans combien de temps. Moi, je dis que, selon ce que je connais, qui est très peu, puis selon ce que les gens en disent, ils pourront pas recouper ça à blanc d'ici un autre 100 ans. Ça va être un désert. Ça repoussera pas comme ça. Ça a pris 350 ans d'avoir des arbres qui sont d'une dimension moyenne et ce qu'ils appellent commercial.
Quand on parle de la forêt boréale, on parle d'une forêt qui est composée de quelle sorte d'essence d'arbres? En fait, là, tu nous parles de l'épinette noire. Est-ce qu'il y a... quelle est la problématique avec l'épinette noire, avec les coupes à blanc et tout ça? C'est la longueur, le temps que ça prend pour ces arbres-là de pousser? Ou?
Ben, c'est... Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi... Le problème, surtout avec les coupes, c'est que... elles sont pas naturelles. Je veux dire, c'est une intervention humaine. Puis toute intervention humaine, ben, ça nuit d'une façon ou d'une autre à l'écosystème qui était jusqu'alors indépendant par rapport à l'humain. Mais pour ce qui est de la problématique des espèces, c'est ça. Sur l'île René Levasseur, on retrouve pas tant que ça, cette problématique-là, parce que selon ce que j'en sais, c'est beaucoup des épinettes noires. Mais ce qu'on retrouve ailleurs dans la forêt boréale, c'est des forêts souvent mixtes. Plus au sud, là, en zone plus méridionale, c'est des forêts qui sont plus mixtes. Il y a un peu de feuillus, un peu de tremble, il y a du bouleau, il y a d'autres conifères, il peut y avoir de l'épinette grise, il peut y avoir du sapin. Alors ce qui arrive, c'est que dans ces forêts boréales là qui sont plus mixtes, on fait des coupes à blanc, on coupe tout ce qu'il y a à couper parce que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de main d'œuvre, beaucoup moins de main d'œuvre qualifiée, alors on coupe à blanc. Et puis après, quand on replante, au lieu de replanter du bouleau, du mélèze, du tremble, de l'épinette noire, on replante que de l'épinette noire parce que c'est l'essence qui est la plus facile à transformer pour ce qui est de la pâte et papier. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des monocultures. Alors là, on a transformé toutes les zones agraires en espèces de gros champs pesticides où on fait des monocultures, du maïs, je sais pas, du canola, du soya. Là, on est rendu à faire ça dans le Grand Nord. Là, on est rendu à faire ça dans les limites nordiques. Là. On fait ça à la forêt boréale. On la coupe, on coupe sa diversité, puis on replante des monocultures. C'est-à-dire que ce que l'être humain est en train de faire actuellement, c'est de gérer les écosystèmes de toute la planète pour en faire finalement un moteur du capitalisme.
Quand on parle de coupe à blanc, là, on rase la forêt, là. C'est ça qu'on veut, c'est ça une coupe à blanc?
Oui, on rase la forêt avec les CPRS, là, les coupes avec protection de la régénération et des sols. Ce qu'on dit, c'est que finalement, on rase la forêt, mais on fait attention au sol. On essaie de pas trop... parce qu'il arrive, c'est que les machineries sont extrêmement lourdes dans des sols très friables. Alors, quand on fait des coupes à blanc, les sols sont beaucoup fragilisés. Alors, ce qui fait, c'est que cette machinerie-là laisse des sillons gigantesques dans le sol, ça se remplit d'eau, c'est très problématique. Alors là, on fait plus attention au sol, puis on laisse quelques repousses, des petites tiges non marchandes, qu'on appelle, là, des tiges qui font pas de profit, là, finalement. On en laisse quelques-unes de temps en temps à des places, mais on laisse aucun arbre mature, aucun arbre commercial. Un arbre commercial, ça prend pas grand-chose pour qu'un arbre soit commercial au Québec, dans la forêt boréale, avec les capitalistes qui sont ici dans l'industrie forestière, là, ça prend un arbre là, de 2 pouces de diamètre. Fait que finalement, on laisse les petits arbres de rien. Puis ces petits arbres-là, c'est quand ils n'ont pas la protection des plus grands arbres, finissent bien souvent par mourir. Donc, c'est ni plus ni moins des coupes à blanc. Le gouvernement du Québec nous dit on fait plus de coupes à blanc, mais c'est de la merde. Là. C'est littéralement de la merde.
Et là, il va y avoir une atteinte à la biodiversité forestière, mais j'imagine qu'il y a aussi des animaux sur cette île-là. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur ces animaux-là?
Oui, c'est clair. Il y a des caribous, il y a des loups. Mais l'espèce qui est la plus susceptible d'être en danger après les coupes qui vont se faire et durant les coupes qui se font actuellement, c'est le martre d'Amérique, qui est une espèce de petit rongeur, qui est très
vulnérable.
Oui, vulnérable aux coupes à blanc. C'est-à-dire que c'est pas un terrain où il peut. Parce qu'il y en a souvent qui disent ouais, le chevreuil, l'arignal, ça y va bien les coupes à blanc, mais ça c'est partiellement vrai là, en passant. Mais pour la martre, c'est absolument pas le cas. Une coupe à blanc, c'est pour cet animal-là, c'est la perte de son habitat pur et net. Et puis, ce qui est problématique aussi avec l'île René Levasseur, c'est pas juste en milieu insulaire que c'est problématique, mais en milieu insulaire, ce qui arrive, c'est que quand on coupe les habitats fauniques, c'est beaucoup plus... C'est signé un arrêt de mort pour la faune qui y habite, parce que la faune ne peut pas se déplacer, c'est une île. Fait que les territoires sont déjà tous... Les animaux ont des territoires, puis ce qui fait que c'est très restreint. Les animaux qui se font couper leur habitat meurent dans la plupart des cas. Donc, c'est une grosse problématique. Tout ce que Kruger est en train de dire, c'est qu'ils vont regarder ça, mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Là. Ils regardent pas ça du tout. Ils s'en foutent, ils font aucune étude. Ils ont commencé à couper. Il n'y a aucune étude préalable qui a été faite sur la biodiversité de l'île René-Levasseur. Aucune étude a été faite sérieuse jamais sur la biodiversité de l'île René-Levasseur. C'est complètement vierge au niveau de la connaissance. Puis eux, ça n'avait pas l'air de les inquiéter trop, là. Ils ont commencé à couper.
Mais comment ça se fait que le gouvernement a donné une île comme celle-là, une île, là, à une compagnie comme la Kruger pour aller exploiter une forêt? Pourquoi une île?
C'est ça. En fait, c'est simplement les lois du marché qui font qu'on en est rendu là. C'est simplement une question de rentabilité. Là. Il y a quelques années, bon, Kruger a eu le contrat d'approvisionnement en 97 pour ce qui est de l'uranium de Vassar. Mais le contrat, le CAF, là, le contrat d'aménagement et d'approvisionnement forestier englobe beaucoup plus que l'île. Je me souviens plus en termes de kilomètres carrés, mais je pense que c'est à peu près 15 000 kilomètres carrés le CAF, puis l'île en fait 2000 quelques. Donc, c'est une petite partie du CAF. Mais ils l'ont mis en 97, puis ils ont commencé à construire les ponts, cet été. Alors c'est ça, moi je pense simplement que c'est qu'ils ont tout coupé le reste de leur casse. Ils l'ont coupé à blanc, ils l'ont détruit complètement. Là on parle des 13 000 km² qui restent. Ce qui arrive c'est que sur les 15 000 km² qui représentent l'ensemble du CAF, l'île René Levasseur qui en représente 2 000 seulement, va approvisionner pour 30% en matière ligneuse toutes les usines de siège de Kruger sur la côte nord. Ce qui fait que on va chercher sur les René Levasseur les plus gros arbres, parce qu'on a tout saccagé le reste. Donc c'est un gros problème. Là, c'est rendu rentable de construire des quais. Donc ils construisent des quais. Moi, je pense que dans quelques années, ça va être rentable d'aller couper dans la taïga. Fait qu'on va couper bien plus au nord, on va aller couper la taïga. Là, ça ne l'est pas encore, mais c'est une question de temps. Selon moi, c'est juste un impératif là, de marcher puis.
Quels sont les groupes environnementaux là, qui vous supportent là, dans votre campagne pour la protection de l'île de René-Levasseur?
Qui nous supportent, c'est-à-dire on n'est pas supporté vraiment, là, mais on, on travaille avec d'autres groupes un peu. C'est-à-dire qu'il y a une coalition qui s'est formée, coalition pour l'île de René-Levasseur, à laquelle Coalition Libertaire n'est pas encore... affilié, là, parce qu'on n'est pas encore à la réunion, il n'y en a pas eu depuis qu'on est au courant de son existence. Il y en a une lundi prochain, en passant. Donc, cette coalition-là est formée de groupes plus ou moins marginaux sur la scène environnementale, là, parce que c'est vraiment à spécifier là, les grands groupes, là, comme l'Union québécoise pour la conservation de la nature, le réseau québécois des groupes écologistes, même Greenpeace qui a commencé une campagne sur la forêt boréale. En fait, ils font rien. Ils font ni plus ni moins, là, selon moi, ils font rien. Ce que le QCN a fait, ils ont présenté un mémoire au BAP en demandant la protection entière de l'île René-Levasseur entièrement. Puis quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient couper Kruger de toute manière, ils ont demandé la protection de 20% de l'île. Alors ils sont complètement abaissés. Ils ont laissé tomber leur demande. Alors que dans une vision écologiste, clairement, on ne peut pas demander moins que 2000 km², c'est illogique de demander moins que ça. Donc, les grands groupes là, sont à plat ventre actuellement. Tout ce qui reste, c'est des petits groupes. À noter que le mouvement Earth First aux États-Unis, donc un mouvement d'écologie radicale qui est né dans les années 80, il y a des gens à Montréal qui sont en train de s'organiser un groupe local de Earth First, donc pour faire surtout de l'action directe en forêt, pour résister en forêt à ce qui se fait là-bas au Coupa Blanc. Donc ce groupe-là, c'est un groupe avec lequel j'imagine, je sais pas, mais peut-être que des gens de Libertaire, sinon Libertaire, lui-même va militer là avec ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont la même, sur certains apports, la même philosophie que Libertaire. Sinon, il y a des groupes comme les Amis de la Terre Québec qui sont dans la coalition pour l'île René Levasseur. Il y a SOS Gaïa à Montréal aussi, qui est dans la coalition. Okay. Alors c'est un peu ça.
Et c'est pas exclu qu'éventuellement il y aurait des actions directement en forêt?
Non, c'est exclu qu'il n'y en ait pas, en fait. Là. Okay. Il va y en avoir.
Ça veut dire qu'il va y en avoir.
Oui, c'est exclu qu'il n'y en ait pas. Je veux dire, c'est ridicule de ne pas le faire parce qu'on est rendu à un point où, en fait, il y a un grand mouvement, je pense, actuellement d'écologie radicale qui se développe au Québec. Puis ça, c'est une excellente chose. Parce que ça va vouloir dire beaucoup moins de saccage, beaucoup moins d'éco-terrorisme de la part du capitalisme, une résistance accrue. Fait que moi, je pense que c'est une super bonne chose. Puis je pense que Libertaire, depuis le début, de toute façon, Libertaire pour la diversité des tactiques, puis on l'a tout le temps défendu. Puis je pense que des groupes comme Earth First, La Terre d'abord à Montréal, vont faire un excellent travail là-dessus aussi.
Oui, donc les grands groupes que tu mentionnais tout à l'heure, l'UQCN, le RQGE, Greenpeace, vous les jugez un peu à plat ventre, triste.
Ben moi personnellement, je les juge, très personnellement là, puis je pense que je suis pas seul, mais personnellement je les trouve à plat ventre. Greenpeace, qui est celui qui semble plus radical, en fait, a un budget faramineux, là, ils ont des tonnes d'argent. Puis, avec ça, ils font pas grand-chose. Selon moi, ils ont fait une très bonne étude sur la forêt boréale. D'ailleurs, Libertaire, on les a appelés pour en avoir des copies, on les a jamais reçues, mais bon, ils donnent au compte-gouttes. Puis, ils ont aucune solidarité militante, ils désirent pas travailler avec personne d'autre parce qu'ils ont une image de marque, littéralement, là, un peu comme Nike, puis ils ont une image de marque à protéger. Donc, ils font des actions publiques très très autoritaires, là, avec un responsable ou une responsable média qui s'occupe de dire à tout le monde quoi faire, puis où est la place de tout le monde. Donc c'est ça, c'est un peu pathétique, là. Moi, je trouve que Greenpeace a commencé comme un mouvement écologiste qui était très radical, puis qui avait quelque chose à offrir à l'ensemble de la vie sur la Terre, finalement, puis je trouve qu'ils sont rendus très corporatistes.
Où est-ce qu'ils en sont, Kruger, dans l'île, là? Est-ce que vous avez déjà des informations à savoir combien de superficie a déjà été coupée?
Non, actuellement, on n'a aucune idée de ça. Il y a un groupe de militants et militantes qui est allé sur l'île pour tourner un documentaire qui va être diffusé très bientôt. D'ailleurs, juste si je peux dire, il y a des veillées boréales qui ont lieu les lundis soirs, deux fois par mois. Au Café K.O. à 19h. Donc la prochaine veillée boréale, c'est lundi prochain à 19h, puis on va présenter un film sur la désobéissance civile en forêt, Pickax. Puis on va présenter aussi des images de l'île René Levasseur qui ont été prises, je pense, si je ne me trompe pas, par les gens qui sont allés cet automne. Alors on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est pour les coupes. On sait que c'est commencé, ça c'est clair. Kruger a eu de la misère parce qu'il y avait des employés de Kruger en grève sur la côte nord, mais là, la grève est terminée selon ce que j'ai entendu, donc ils ont commencé les coupes full pin jusqu'au 12 décembre légalement. Donc je sais pas combien ils vont pouvoir couper, mais ils ont commencé.
Donc ils fonctionnent, là, ils rentrent là avec leur machinerie, ils les transportent en bateau, j'imagine.
Oui.
Et ils retransportent le bois en bateau vers la rive. C'est une dépense financière assez importante de pouvoir aller faire de l'exploitation forestière sur cette île-là. La Kruger, quel genre de compagnie est-ce que c'est, ça, la Kruger?
OK, c'est une compagnie d'abord québécoise,
oui,
qui est sur siège social à Montréal, qui est une compagnie fermée, ce qui veut dire qu'elle n'émet pas d'action. Là, c'est des propriétaires privés. C'est une famille, en fait, qui est propriétaire de Kruger. Puis, elle produit, c'est le plus grand producteur de papier hygiénique au Canada. Mmh. C'est surtout ce qu'ils produisent. Ils produisent aussi un peu de boîtillage. C'est ce qu'ils vont faire beaucoup avec les arbres de Levasseur parce qu'ils ont le gabarit nécessaire pour faire un 2x4, là, ce qui n'est pas le cas de toutes les épinettes noires. Donc, ça va beaucoup être ça qui va être... c'est beaucoup ça Kruger, en fait. J'en connais pas beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de recherches à faire sur cette compagnie-là. C'est important qu'on commence à lister une compagnie comme ça, de la connaître très bien. Puis moi, j'en connais pas beaucoup plus que ça. Ouais, c'est ça son...
mais là, vous avez l'intention cette semaine, là, le mercredi, de passer à l'action, là, ici à Montréal.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une manifestation devant les bureaux de Kruger. Assez tôt le matin, là, vers 9h, le but, c'est justement qu'ils soient au bureau pour qu'ils nous entendent. Là. Le but, c'est vraiment de les perturber le plus possible.
Et combien de personnes vont être mobilisées dans cette manif-là?
Ah, j'ai aucune idée. Là. C'est,
vous avez fait un appel général,
j'imagine? Oui, c'est un appel général. On a fait une mobilisation assez large. Là.
Et avez-vous été une bonne réponse des groupes environnementaux, là, dont on parlait tout à l'heure?
Ah, on n'a pas du tout communiqué avec ces groupes-là. Non. Quand Libertaire, jusqu'à date, là, c'est la deuxième manif qu'on organise en passant devant Kruger. On en avait fait une au printemps dernier, au mois de mai. Qui n'était pas vraiment libertaire, parce que Libertaire en essai, qui était plus PPL, Pimpanin et Liberté, qui est un des comités qui a fondé Libertaire. Mais peu importe, c'est la deuxième fois qu'on y va. Puis,
est-ce que ça va brasser un peu, là?
Ben, on l'espère. On l'espère. Qui vivra verra, qui ira verra, mais tout ça pour dire qu'on attend le plus de monde possible. C'est clair qu'on aimerait ça une bonne mobilisation. C'est difficile dû au fait que la manifestation est à 9h le matin.
Oui.
Donc ça va être difficile parce que les gens savent où sont leurs priorités, là, mais je pense que c'est important que les gens se bougent un peu le cul puis essaient de se mettre à lutter concrètement pour arrêter l'écocide. Là.
En fait, le problème, c'est que les gens, ils voient pas ce qui se passe dans la forêt boréale.
Oui, c'est un peu problématique. Là. C'est comme les gens, c'est dans leur salon, qui ont aucune idée que leur consommation personnelle plonge les gens dans la pauvreté à deux pas de chez eux, mais aussi dans le tiers-monde, puis en Afrique, en Amérique latine, tout ça, les gens s'en foutent parce que c'est loin, mais c'est la même chose qui se passe ici avec la forêt boréale, tu sais, on s'en fout que des habitats soient détruits, là. C'est ni plus ni moins comme si on allait chez vous, on détruisait votre maison, puis c'est ça la coupe à blanc. Mais c'est une espèce qui est autre que l'espèce humaine, alors on s'en fout un peu, puis c'est pas nous, hein. C'est des loups, c'est des pissenlits, puis c'est des... Bon.
Donc, le 26 à 9h, les gens qui sont intéressés à se rendre dans cette manifestation, se rendent à quel endroit?
C'est au métro Université de Montréal. On se rencontre à la sortie Édouard-Montpetit à 9h, c'est ça.
OK. Donc, les gens se rendent là à 9h et puis vous allez vous déplacer vers les bureaux de la Kroger.
Oui, on va aller à Kroger. Puis c'est un peu le plan de Libertaire à date de s'attaquer surtout à Kroger plutôt que le gouvernement, mais l'un n'excuse pas l'autre. C'est juste que Kroger est une cible plus facile là, parce que son siège social est assez central. Là.
OK. Et quelle va être la tactique? Quel va être le message qui va être véhiculé lors de cette manifestation-là?
Je pense que la revendication là, principale, c'est clair que c'est la fin de toute coupe sur René Levasseur. Bon, c'est la revendication principale. Ensuite, c'est sûr, on demande d'autres approches que la coupe à blanc partout au Québec. Là, on demande la fin des coupes à blanc. Ça, c'est dans les grosses revendications. Il y en a d'autres, mais je ne les nommerai pas. Par contre, pour ce qui est de la tactique, ça va dépendre aux gens qui seront présents à la manifestation, là, de décider ce qui font de la manif, là, parce que tout le monde qui y participe, c'est sa manif, finalement.
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, on va vous souhaiter une bonne manifestation mercredi.
Ben, merci.
Et surtout aussi de réussir à faire avancer ce dossier-là. Une manifestation, ça reste une manifestation. Est-ce que vous avez des plans pour la suite au niveau de ce dossier-là, là, de l'île René Levasseur? Parce que c'est pas une manifestation qui va les arrêter. Alors, qu'est-ce qui s'en vient après?
Non, c'est ça. Comme vous avez dit tantôt, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par Kroger pour aller couper sur Levasseur. Donc, si on veut les arrêter, il faut que ça leur coûte de l'argent de couper. Donc, je pense que la résistance en forêt, c'est vraiment la meilleure des choses. C'est problématique au niveau du climat parce que on peut y aller peut-être à partir de juin, puis à partir de septembre, on peut plus y être. Alors, c'est problématique. Alors, on prépare la lutte activement à Montréal durant tous les mois où on peut pas y être. Puis quand ça sera rendu le temps d'y aller là-bas, ben on sera prêt puis on ira.
OK, donc il n'y aura pas d'exploitation de l'île après le mois de décembre.
12 décembre, il commence le 12 mai.
OK.
Donc,
ça vous donne un certain moment pour vous préparer.
Pour se préparer, exactement. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à se préparer à aller en forêt, ben ils ont juste à contacter avec les groupes qui préparent ça.
Donc, pour vous contacter, le collectif Libertaire, j'imagine que vous avez un courriel?
Oui, on a un courriel. On a aussi un site Internet. La meilleure solution, c'est d'aller voir dessus. C'est www.libertaire.cjb.net.
OK. Et le courriel?
Le courriel, c'est blackswan, blackswan, à commercial poétique, poetic.com.
Ben Gabriel, merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Et on vous souhaite une bonne manif et surtout de réussir à convaincre tout le monde d'aller vous soutenir dans ce dossier-là parce que je pense que sans effectivement la diversité des tactiques, là, on n'arrivera pas à faire avancer des dossiers. Merci Gabriel.
Ben merci à vous.
Ben bonne soirée.
Oui, vous aussi, au revoir.
Bonne journée aussi.